Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Sortir ou non de l'Union européenne, c'est le choix qui se présente désormais aux Britanniques. Le Premier ministre David Cameron a promis qu'un scrutin aurait lieu avant la fin 2017, dans 2 ans donc. Si l'on ne connaît pas encore la date précise du vote, ni la question exacte qui sera posée aux Britanniques, ni même les concessions que David Cameron veut obtenir des Européens, les partisans du « in » et du « out » ont déjà lancé non pas 2 mais 3 campagnes. La « in » campagne est chez les eurosceptiques « vote leave » et « leave.eu ». Pour y voir plus clair, le reportage de Marie Billon.
So will you please put your hands together for Stuart Rose?
Ça ressemblait à un lancement en grande pompe. Devant un écran géant et derrière un pupitre arborant le nom officiel de la campagne, Britain Stronger in Europe, le Royaume-Uni plus fort au sein de l'Europe, Stuart Rose, l'ancien patron des magasins Marks & Spencer, a lancé la campagne des europhiles.
Nous sommes devant le choix le plus important de notre génération. Voulons-nous rester dans le plus large marché commun existant à ce jour, ou préférons-nous le quitter en mettant peut-être en péril des emplois et en créant un climat d'incertitude pour notre économie? Continuerons-nous à être parmi les leaders de ce monde en restant dans l'Europe, ou prenons-nous le risque de diminuer notre influence dans le monde?
Le discours cherche à galvaniser les troupes, pourtant il n'est pas tenu devant un parterre d'enthousiastes. La campagne pro-européenne s'est ouverte devant des journalistes. C'est qu'il est trop tôt, on ne sait pas combien de temps la campagne va durer, peut-être 2 ans, mais les europhiles ne sont pas les seuls à retenir leurs militants. Les eurosceptiques de Vote Leave n'ont de leur côté même pas organisé de lancement officiel pour leur campagne, et Leave.eu a été lancé par Nigel Farage lors de la conférence annuelle du parti populiste UKIP. Des eurosceptiques divisés en 2 courants alors même qu'une seule campagne est autorisée, ce qui ne pose pas de problème selon Nigel Farage.
Je soutiens les deux campagnes. Vote Leave est un groupe dont les racines sont au Parlement de Westminster et il avance des arguments économiques. Il veut que le Royaume-Uni puisse faire du commerce avec qui il veut. Leave.eu est complètement différent et cible une audience complètement différente. Ce groupe se concentre sur le contrôle des frontières, la souveraineté. Ce sont deux campagnes qui ne sont pas destinées au même public. Et je ne les considère pas comme contradictoires, mais comme complémentaires.
Paul Stevenson est le porte-parole de Vote Leave.
C'est la commission électorale qui décidera quelle campagne deviendra officielle. Il faudra prouver que nous représentons tous les arguments des eurosceptiques, qu'on a assez d'argent et qu'on est capable de mener une campagne au niveau national. Pour nous, il est clair que nous remplissons tous les critères, donc nous pensons pouvoir représenter la campagne officielle, ce qui est très important parce que ça nous donnerait du temps d'antenne.
Officiellement, tout va bien, les deux groupes d'eurosceptiques sont les meilleurs amis du monde, mais évidemment, ça se tire déjà dans les pattes. Et surtout, ça ne simplifie pas les choses pour les Britanniques qui vont devoir décider de l'avenir de leur pays d'ici quelques mois. Or, l'Europe est déjà un sujet opaque pour beaucoup. Ce dont ils ont besoin, c'est d'informations, dit Aaron Davis, professeur de communication politique à l'université de Goldsmith.
C'est dur de clarifier les choses, alors même que l'époque apprécie plutôt les petites phrases. Ceux favorables à la sortie de l'Union européenne n'ont pas besoin d'en dire beaucoup. Une phrase forte suffira parce que, depuis des années, la presse britannique est très eurosceptique. Le point de départ est donc plutôt négatif, et il est souvent lié à l'immigration. Défendre l'Europe est plus dur. Il faut avancer l'argument commercial, mais surtout, il va falloir aller sur des terrains plus personnels. Dire que c'est plus facile de partir en vacances en Grèce quand on est dans l'Union européenne, ou que les vins français sont moins chers comme ça.
Avec 2 grands référendums ces dernières années, celui sur le système de vote en 2011 et surtout sur l'indépendance écossaise l'an dernier, on pourrait croire que les pro et anti-Europe disposent d'un manuel tout près des erreurs à éviter. Et ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est le fear factor. Londres a trop essayé de faire peur aux Écossais et c'est ce qui a fait basculer certains vers le yes. Pour l'instant, c'est Vote Leave qui utilise des effets sonores dramatiques pour sa campagne.
Every week, the United Kingdom sends 350 million pounds.
Stronger in Europe, elle utilise une musique plus douce et légère.
What makes our nation strong?
Whether on the pitch or in the boardroom, people are stronger when they work together.
Mais selon Aaron Davis, il ne faut pas sous-estimer le fear factor.
Les eurosceptiques travaillent sur la peur depuis longtemps. La peur de l'immigrant, la peur des régulations, la peur des bureaucrates bruxellois sans visage mais qui décident de tout pour nous. Cette rhétorique, les gens l'entendent depuis des années. C'est une méthode qui a prouvé son efficacité. C'est vrai, moins de gens votent quand on joue le fear factor. Mais ceux qui le font ont ces arguments en tête et font leur choix en fonction. Personnellement, je pense que les deux campagnes vont jouer sur la peur. Les europhiles vont insister sur la peur de l'inconnu. On risque de finir par scénario catastrophe contre scénario catastrophe.
Tout dépendra finalement de la durée de la campagne. Les deux camps vont devoir faire attention à ne pas saturer la population d'informations, mais les choses sérieuses vont commencer d'ici quelques jours, puisque David Cameron va formuler ses demandes, à savoir les concessions qu'il veut obtenir de ses partenaires européens pour pouvoir convaincre les Britanniques de rester dans l'UE. À partir de là, les pros et anti pourront fourbir leurs armes, sans pour autant connaître encore la date du référendum.
Marie Billon à Londres. Et pour l'instant, dans les sondages, partisans du in et du out sont quasiment à égalité, avec une très légère avance pour la sortie de l'Union. Quelle est l'origine de la crise grecque ? Pas la crise financière, ni le gonflement de la dette publique, ni l'austérité ou l'absence de réforme sociale, c'est la corruption au plus haut niveau. C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport du Gréco, rien à voir avec le peintre. Il s'agit du groupe d'État contre la corruption, un organe du Conseil de l'Europe. Le Gréco qui pointe en particulier les petits arrangements des juges et des procureurs, mais surtout des parlementaires. Car en Grèce, il reste encore difficile de faire la part des choses entre petits cadeaux et corruption, Charlotte Stivenard.
Le rapport explique par exemple que rien n'interdit à une entité juridique comme une association de financer ou de fournir des assistants supplémentaires, des voitures ou des locaux à des parlementaires. Il y a le lobbying aussi, cette technique qui consiste à essayer d'influencer des députés en leur présentant une situation sous un certain angle n'est pas non plus surveillée. Le rapport cite également des points positifs. En Grèce, on ne peut pas être à la fois député et exercer certains métiers comme fonctionnaire, fournisseur de l'État ou directeur de médias, mais il reste encore difficile de dénoncer des conflits d'intérêts plus ponctuels, comme lorsqu'un député a un emploi qui ne fait pas partie de cette liste, mais qui est lié à un projet de loi particulier. Depuis 2003, les membres du Parlement doivent également déclarer leurs revenus, mais aussi leurs activités non rémunérées. C'est le cas aussi de leur famille, mais par contre, les contrôles sont peu courants et difficile aussi de lever l'immunité des députés quand ils doivent se présenter devant la justice. Mais si le rapport dénonce la corruption comme une cause de la crise, il dénonce aussi ses conséquences. Alors que les créanciers mettent la pression sur la Grèce pour que les lois soient passées le plus vite possible, l'utilisation de la procédure d'urgence pose problème. Pas facile dans ces conditions de repérer quand un député a rajouté une petite phrase ou un petit amendement pour arranger un ami. Le rapport cite en exemple, le changement de la définition des agents publics dans une de ces lois omnibus en 2014, il aurait permis à plusieurs personnes d'éviter d'être poursuivies pour des infractions de corruption commises avant la création de la loi.
Alors, il a des grosses balles.
Toi, mon touc, t'as des grosses couilles.
Ferme-la.
Tenez-lui les bras.
Mais lui, tu
allez, allez, vas-y, balance.
Ferme ta gueule. Félix.
Bonjour Evmino.
Bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui dans votre chronique jeune, vous nous parlez, et c'est bien de saison, des week-ends d'intégration pour les étudiants qui entrent dans les grandes écoles. Enfin, ce terme est déjà ringard, maintenant il faut dire way.
Way, oui. Et ce n'est pas anodin si ces dernières années, le week-end d'intégration a gagné ses galons d'abréviation, c'est qu'il est complètement rentré dans les mœurs, et cela un peu partout en Europe.
Alors way, c'est aussi le titre d'un film interactif qui sort aujourd'hui sur les petits écrans.
Oui, il s'appelle Way or Die, Way ou Meurt. Visible depuis aujourd'hui donc sur Internet, le pitch, un jeune homme est retrouvé mort au petit matin dans un étang pendant un week-end d'intégration. À vous de remonter le temps de manière interactive pour comprendre ce qui s'est passé. Vous pouvez regarder les photos de Thomas, la caméra de Hugo, ou prendre de la hauteur depuis un drone ou une caméra de surveillance. En fait, ce film est surtout un prétexte pour proposer une plongée fracassante dans ce monde violent des Way. Sexe pas toujours consenti, alcool, drogue, humiliation, violence. Simon Bouillon, le réalisateur, l'affirme, tous les faits intégrés dans le film sont tirés de vrais faits divers parus dans la presse et ça fait vraiment peur.
En réalité, ces week-ends d'intégration ne font que perpétuer des pratiques qu'on dénonce depuis des années, celles du bizutage.
Ah oui, c'est un triste marronnier, comme on dit, un sujet qui fait son apparition dans la presse chaque année. Les accidents existent, parfois mortels, et ce, dans tous les pays du continent. Personne n'est à l'abri, même si certaines facultés, la médecine par exemple, ou les écoles privées, commerce, ingénieurs, sont plus concernées que les autres. En France, ces pratiques sont interdites par la loi depuis 1998. Un comité contre le bizutage existe même, qui a recensé déjà une dizaine de cas depuis la rentrée 2015. De nombreux établissements rechignent à inscrire en toutes lettres les peines encourues par les étudiants. Je les rappelle, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
Pour la France et ailleurs, comment ça se passe, Eve ?
Alors, l'un des autres grands pays concernés, c'est le Royaume-Uni. Là-bas, on ne parle pas d'intégration, mais de cérémonie d'initiation. Les grandes universités continuent d'imposer aux jeunes étudiants des pratiques humiliantes et parfois violentes dans les fraternités, les frats. Pourtant, cela fait des années que les revendications des syndicats d'étudiants britanniques exigent l'interdiction, pure et simple, du bizutage. Un jeune a d'ailleurs trouvé la mort en 2008.
Alors, autre pays, autre mœurs, même conséquence dramatique au Portugal.
Leur histoire avait choqué l'Europe entière. 6 étudiants sont morts en décembre 2013 à la suite d'un bizutage. Ils étaient partis ivres se baigner en pleine nuit et s'étaient fait emporter par l'océan. Là encore, l'opinion publique avait découvert, bouleversé l'étendue des violences pratiquées sur les nouvelles recrues. Et depuis cette date, de nouveaux événements ont pourtant été signalés encore au ministère de l'Éducation portugais. Des étudiants ont par exemple été retrouvés dans un état de coma éthylique, enterrés dans le sable jusqu'au cou dans leur costume traditionnel d'étudiant.
Alors malgré tout, sachant puisque de nouvelles cérémonies d'initiation voient le jour, beaucoup plus vertueuses cette fois.
C'est justement le Portugal qui montre l'exemple. L'association Criatividade propose aux Republicas, les fraternités étudiantes portugaises, d'autres moyens de s'intégrer. Cette année, par exemple, les nouveaux arrivés à l'université de Coimbra, un des établissements à la réputation séculaire en matière de bizutage, ont eu la possibilité de participer activement à des expositions, des débats, des compétitions sportives et des ateliers. Une belle manière d'affronter le problème qui mérite d'être creusé.
Merci Eve Minot, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle version de votre chronique jeune, plus enrichie, plus longue et plus interactive.
Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.
Une activité qui devrait enchanter tous les jeunes fêtards, mais aussi les autres, sniffer du chocolat. Alors ce n'est pas ce que vous croyez, le Chocolate Shooter est une petite machine mise au point par un artisan chocolatier belge. Johanna Hochstein est allée le rencontrer dans sa boutique à Bruges.
Des tablettes de chocolat blanc, noir ou au lait, des truffes, des pralinés, des orangettes, difficile de ne pas saliver en admirant la vitrine de cette chocolaterie. Mais ce n'est pas ces douceurs finalement assez traditionnelles que Muriel est venue chercher. Elle est là pour essayer la machine à sniffer du chocolat dont tout le monde parle à Bruges. C'est Gert Koptisch, le vendeur, qui lui fait la démonstration. Il saisit l'appareil sur l'étagère, une sorte de catapulte en plastique sur laquelle il dispose un peu de poudre de cacao.
On a fait ça avec un goût gingembre et un goût framboise, donc un peu moins fort.
Qu'est-ce que vous voulez tester, madame ?
Framboise. Je compte jusqu'à sur toi, un, deux, trois, et au trois, vous expirez. Un, deux, trois.
Yep. Oui. Oh, ça pique surtout. Maintenant, j'ai un peu du goût.
Première minute, c'est un peu fort.
Oui, c'est très fort. Ça vous plaît ?
Oui, maintenant, oui.
Il y a des gens, après 10 minutes, ils sont sans encore.
Et s'il faut finir de convaincre des clients encore perplexes, Gert Koptisch ne manque pas d'arguments.
Je dis toujours, c'est pas juste une poudre pour faire un chocolat chaud, c'est vraiment une poudre pour avoir l'émotion de manger quelque chose, mais rien dans l'estomac. Pour les filles qui veulent oublier un ex, elles mangent beaucoup, beaucoup de chocolat. Et beaucoup de kilos, mais sniff une fois et vous avez oublié l'ex dans une heure.
Mais cet appareil n'a pas été conçu au départ pour garder la ligne. En fait, c'est pour une autre occasion très spéciale que le chocolatier belge Dominique Perzone a conçu cette invention.
Les Rolling Stones, ils étaient à Bruxelles. Le vendredi, c'était l'anniversaire de Ron Wood qui joue la guitare. Et le samedi, c'était l'anniversaire de Charlie Watts, le batteur de Rolling Stones. Ils ont demandé à moi pour organiser ce fête et faire la nourriture. Une des choses qui a vraiment marché, c'est le dessert et bien sûr le chocolat belge. Parce que c'était le grand-père rock'n'roll, je pensais on va donner le chocolat dans une autre façon. Je suis venu avec l'idée de laisser sniffer le chocolat. Et là, on a fait des essais. Quand on sniffe que le chocolat, c'est pas agréable, ça marche pas. Et après, je suis venu avec l'idée, j'ai besoin de quelque chose dans le mélange qui ouvre vraiment le nez. Et j'ai fait un mélange avec le piment et le chocolat. Et c'est la plus mauvaise idée que j'avais dans ma vie. Ça fait très mal.
Depuis cet événement, la machine à sniffer du chocolat s'est vendue à plus de 25 000 exemplaires dans les 3 boutiques en Belgique, mais aussi sur l'Internet. Pour 45 euros, le chocolatier belge propose la catapulte en plastique et 2 dosettes de poudre de cacao, l'une aromatisée au gingembre, l'autre à la framboise. Des internautes russes, indiens, canadiens, australiens ont décidé de se munir du paquet pour proposer un dessert original à leurs convives. Quant au gouvernement italien, il a décidé d'en acquérir quelques-uns à des fins éducatives.
Il y a des gens qui sont complètement contre. J'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui disent oui, c'est quoi, c'est la motivation pour faire sniffer les trucs aux gens et c'est pas bien pour les jeunes et tout ça. Bien sûr, mais moi j'ai pas fait ça pour prendre la drogue, hein. Pour moi, c'est bien qu'il y ait une discussion maintenant. Et en Italie, par exemple, le gouvernement d'Italie, ils ont acheté quelques machines, ils ont fait un tour dans les écoles, et l'idée, c'est mieux de sniffer le chocolat qu'autre chose.
L'objectif de Dominique Perzone, c'est aussi d'offrir une autre manière d'approcher la nourriture. Pour lui, le nez est également un organe gustatif.
Mais l'idée, c'est surtout de motiver les gens pour faire des essais à sniffer. Pas la drogue, bien sûr. On a beaucoup de goût sur notre langue. On a le sucre, l'acidité, le sel, mais les parfums de notre nourriture, ça vient dans notre nez. Hein. Mais par exemple, un plat très connu, le tomate mozzarella, le fromage et le tomate, l'huile d'olive. Et à la place de mettre le basilic sur l'assiette, on sèche le basilic dans le four, on fait une poudre avec, on laisse sniffer les invités ou les copains la basilic et après on mange le tomate mozzarella. Mais moi je motive les gens pour les garder une fois dans leur armoire de cuisine, qu'est-ce qu'on peut sniffer quoi. Hein.
En revanche, pour éviter toute ambiguïté, Dominique Perzone vous déconseille de sniffer du chocolat blanc.
Et pour les inconditionnels du chocolat solide, je vous signale l'ouverture à Paris du 21e Salon International du Chocolat jusqu'à dimanche.
Sortir.
C'est un musée inédit dans un petit pays frappé par la guerre et par une grave crise économique. Un musée de l'histoire des toilettes à Kiev, en Ukraine. Sébastien Gobert.
Il y en a pour toutes les petites envies et les gros besoins. Du pot de chambre au trône royal moyenâgeux, du siège en faïence finement décoré datant de l'Empire d'Autriche au high-tech japonais, le musée de l'histoire des toilettes exhibe fièrement les pièces qui ont permis aux êtres humains de soulager leurs besoins naturels au fil des temps. Aujourd'hui, c'est Diana qui fait la visite.
Ce musée est le résultat de la passion du directeur et fondateur, Mykola Bogdanenko. Au début, ce sont des amis qui lui ont donné des toilettes quand il a ouvert un magasin de plomberie. Et puis, il a passé les 20 dernières années à amasser cette collection.
De grands tableaux, des maquettes, des figurines, des briquets et des téléphones en forme de toilettes, et même la statue de cire d'un prisonnier se soulageant dans sa cellule, la collection retrace les développements des toilettes à travers le monde.
Regardez, notre directeur a écrit une encyclopédie sur le sujet, l'histoire mondiale des toilettes. Et ce n'est que le premier tome, il travaille déjà au deuxième.
La visite ne coûte que l'équivalent d'un euro, mais le musée reste un trésor que peu de gens connaissent à Kiev. Pas de quoi se décourager pour autant, la collection s'agrandit chaque année grâce à des dons venus du monde entier. Et le musée a une mission bien particulière. L'Ukraine n'étant pas membre de l'Organisation mondiale des toilettes, c'est donc à ce musée de défendre en Ukraine le droit de chacun à disposer de toilettes civilisées. Le sujet peut paraître grivois, mais dans ce pays, c'est loin d'être une évidence.
Et c'est la fin d'Accent d'Europe, émission réalisée et mise en onde par Boris Vichit. On se retrouve demain dès 12h40, temps universel.